Alors mes amis, c'est déjà le samedi soir 23 novembre 91 et nous poursuivons donc notre étude sur le don de prophétie exercé en accord avec la foi, mais nous le présentons dans un ensemble dans l'ensemble des Écritures, et c'est surtout demain que nous saurons vraiment ce qu'est ce don de prophétie en étudiant le chapitre 14e demain matin. Alors, la lecture proposée était donc 1 Corinthiens 12, verset 31 à 13, verset 1, à 14, verset 1, dans tout le chapitre 13. Et Galates, chapitre 5, verset 22e. Comment est-ce que ça a marché dans vos ateliers? Ça allait? C'était plus ou moins difficile? Bon. Oui. Bien, c'est des fois bien qu'il y ait une difficulté. On va essayer de la surmonter. Dans le groupe 10, comment ça a marché?
Très bien.
Vous avez eu?
Beaucoup de plaisir.
Beaucoup de plaisir, alors, alléluia.
Des bonnes questions.
Comment?
On dit de bonnes discussions.
De bonnes discussions, ben, c'est très bien, hein? Puis on fait connaissance dans les discussions aussi. Et dans le groupe 9, qu'est-ce qui s'est passé?
On a eu des questions.
Vous avez eu des questions? Laquelle, par exemple? Non, mais ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est jamais dit que l'amour était un don dans l'Écriture. C'est pas écrit dans l'Écriture. C'est pas présenté comme un don. C'est un fruit. C'est le produit de la vie. Et cela, nous devrions tous l'avoir. Hein? Si nous avons la vie produit quoi? L'amour. C'est un fruit. Le fruit n'est pas autre chose que le produit de la vie. Vous êtes dans le cep ou vous n'y êtes pas. Bon, mais ça, nous allons voir. J'ai lu un des chapitres qui est appelé un des sommets du Nouveau Testament. Vous êtes d'accord, hein? Le chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour, hein? Un des sommets du Nouveau Testament. J'espère que vous le savez un peu par cœur, hein? Alors, ce qui frappe, je vous ai demandé de lire depuis le chapitre 12, hein, depuis le dernier verset de ce chapitre 12 et le premier verset du chapitre 14. Vous avez vu, n'est-ce pas, que ça encadre le chapitre 13. Et alors, à la fin du chapitre 12, dans la traduction la plus littérale, il est dit, verset 31, « Désirez avec ardeur ». Dans ce second, je crois qu'il est mis « aspirer », hein. Mais littéralement, c'est « désirer avec ardeur les dons de grâce les meilleurs ou les plus grands ». Et puis, dans le chapitre, alors il nous montre un chemin bien plus excellent, et puis « poursuivez l'amour », le verset premier, hein, du chapitre 14, et désirer avec ardeur, de nouveau, les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Donc là, on a tout de suite un des dons les plus excellents. C'est ce que nous allons voir demain. Et alors, dans ce chapitre 12 que nous avons lu ce matin, dans cet épître, On peut dire qu'on a un vrai cours de physiologie spirituelle. Hein. Vous savez ce que c'est la physiologie? C'est cette science qui nous expose le fonctionnement des organes du corps humain et ce qui les régit. Et le Saint-Esprit a voulu nous exposer dans ce chapitre que vous avez lu ce matin la relation des organes du corps de Christ entre eux. Il prend l'exemple du corps humain pour nous présenter les relations des organes du corps de Christ entre eux, de tous les membres, le fonctionnement particulier de chacun, le but final auquel tous doivent tendre et la source unique dont dépend toute l'activité de ce corps. Quelle est la source unique dont dépend toute l'activité des membres du corps? C'est quoi? Le Saint-Esprit. Hein? C'est la tête glorifiée dans le ciel et le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cette révélation du corps de Christ, elle a été donnée à qui pour la première fois? Et où? À Paul. Hein? Paul. Et j'ai souvent cité cette phrase de la petite Thérèse de la Trinité, cette carmélite de Dijon qui est morte à 26 ans, et qui disait, puisqu'il est dit dans les Épîtres que c'est Paul qui a reçu la révélation de ce qu'est l'Église, je veux me mettre à l'école de Saint Paul pour savoir ce qu'est l'Église du Christ, le corps du Christ. Eh bien, c'est ce que nous devons tous faire. Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Il avait vu mourir Étienne, il était d'accord avec ceux qui lapidaient Étienne puisqu'ils gardaient leurs vêtements, et puis, non content d'avoir vu couler le sang d'Étienne, il allait plein de rage à Damas pour arrêter les chrétiens de Damas et les mettre en prison ou les faire mourir. Et voilà que, à midi, sur ce chemin, il est terrassé, il tombe à terre, et il entend cette voix qui vient du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Donc, nous sommes connus d'en haut, et interpellé par son nom, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui de dire, qui es-tu Seigneur? Et qu'est-ce qu'il entend? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais il ne connaît pas Jésus, il ne l'a pas connu selon la chair. Alors comment se fait-il qu'il persécute Jésus? Parce qu'en touchant un membre de son corps, il a touché à la thèse, comprenez-vous? C'est là qu'il a eu la révélation de ce qu'est le corps de Christ. Tous les croyants sont membres du corps de Christ. Et ceux qui touchent à un croyant, ils touchent à la tête. La tête est sensible à la souffrance des membres de ce corps. Donc, Paul a eu cette révélation du corps de Christ au début, donc, de sa conversion. C'est ça qu'il a arrêté et il est devenu, justement, celui qui nous donne toutes ces explications. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit ce matin, où chaque membre du corps a sa fonction et doit agir dans l'unité pour le bien de tous. On a besoin donc les uns des autres. Et on a besoin aussi, et j'espère que vous en êtes convaincus, de ces dons de l'esprit, de ces manifestations spirituelles, mais pas de manifestations qu'on a fabriquées nous-mêmes par nos émotions. Il faut que ce soit les manifestations de qui? Du Saint-Esprit. Et on en a cité 9 en particulier, Et j'espère que vous êtes maintenant de ceux qui désirent avec ardeur des dons de grâce venant vraiment d'en haut et qui désirent les dons de grâce les plus grands. Les Corinthiens qui avaient tous les dons, mais ce qui leur importait le plus, c'était quel don ? Le plus petit. Le don des langues. Et ils faisaient grand cas du don des langues, comme aujourd'hui, il y a certains milieux qui mettent toujours en avant le don des langues, alors qu'il y a des dons plus excellents. Et ce sont ces dons plus excellents dont l'Église a vraiment besoin. Car si je cherche seulement un don pour moi-même, pour m'édifier moi-même, eh bien, je ne travaille pas au bien de tous. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que quand on a un don, on peut l'employer ou ne pas l'employer. Et l'apôtre Paul, qui était revêtu de tant de dons, à certaines occasions, il ne les employait pas. Est-ce que Paul avait le don de faire des miracles ? Oui. Eh bien, quand il est allé à Corinthe, est-ce qu'il a employé ce don pour répondre aux désirs des Juifs qu'il allait rencontrer et qui désiraient voir des miracles ? Hein ? Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Pourtant, il avait le pouvoir de faire des miracles. Mais il n'a pas essayé de s'imposer par des miracles. On nous dit toujours, il faut sentir ce que le monde désire et aller au-devant de ses désirs. Mais il ne veut pas que la foi des Corinthiens repose sur des miracles. Alors, comme il sait qu'ils sont désireux de voir des miracles, il ne fera pas de miracles. Et puis, il sait que les Grecs, eux, ils aiment la sagesse. Eh bien, est-ce qu'il fera comme il l'a fait à Athènes ? Est-ce qu'il citera chez les Corinthiens les auteurs grecs ? Il avait fait un magnifique discours à Athènes et il avait montré qu'il était capable d'en imposer même à l'aéropage. Quels ont été les résultats de ce beau discours ? Est-ce qu'il y a eu une église qui s'est formée à Athènes ? Non. Alors, quand il part pour Corinthe, il a arrêté dans son cœur qu'il ne prêcherait que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Folie pour les Grecs, qui voulaient la sagesse, et puis scandale pour les Juifs. Maudit quiconque est pendu au bois. Alors, vous voyez, c'est un homme qui est en possession de tous les dons, et même, il nous le dira, et nous le verrons demain dans le chapitre 14, est-ce qu'il pouvait parler en langue ? Oui. Est-ce qu'il le faisait dans l'église ? Non. Il dit qu'il est mieux parler, donner cinq mots dans un langage compréhensible que 10 000 en langue qui ne serait pas compréhensible, mais qui le mettrait peut-être en avant. Voilà comment Paul voyait ses dons. Toujours en vue de l'utilité. Alors on commence à comprendre ce dont nous avons besoin. Et si je parle dans les langues des hommes et des anges, disait l'apôtre, mais que je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je suis ? Je fais du bruit. Et vous savez, dans nos milieux aujourd'hui, on fait peut-être beaucoup de bruit. On nous dit que toute la génération future sera une génération de sourds. Ouais. Oui. D'abord, on écoute tout le temps, on a toujours des appareils dans les oreilles, n'est-ce pas ? On les voit qui foncent là avec leurs appareils. C'est drôlatique, hein ? On s'isole là, mais enfin, on a du bruit dans la tête. Et puis, la musique aussi, c'est du bruit. Et il y a bien des passages dans l'Écriture qui nous montrent que Dieu en a assez de ce bruit. Je ne puis plus supporter le bruit de vos cantiques, qu'il est dit dans Amos. Hein. Mais nous n'allons pas plus loin. Alors, donc même si nous parlions la langue des anges et des hommes, si on n'a pas l'amour, on est comme de l'airain qui résonne, une cymbale retentissante. Bon, c'est simple. Hein. Si j'ai la prophétie, qui est pourtant un grand don, et que je connaisse tous les mystères, et toute connaissance, même le don de connaissance, et que j'ai même la foi, dont on a parlé, de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors qu'est-ce qui vous manque? Oui, alors quand on se demande toujours, n'est-ce pas, qu'est-ce qui nous manque? On est conscient peut-être qu'il y a quelque chose qui nous manque. Hein? On se sent un peu frustré, on voit des âmes qui ont une certaine plénitude, puis nous, ben, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Puis on en a peut-être pas seulement l'impression, mais réellement, on est vide. Ben, alors qu'est-ce qui nous manque? Les gens vous diront, c'est le don des langues. Non. Si vous l'aviez, et qu'on n'ayez pas l'amour, vous n'êtes rien. La prophétie, connaître tous les mystères, c'est pas cela. La connaissance, c'est pas cela. La foi, ah, si j'avais plus de foi, c'est pas cela. Je ne suis rien. Quand je distribuerai en aliments tous mes biens, ben c'est quand même beau ça. Mais on peut le faire. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Mais alors, justement, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est pour ça que la deuxième question est un peu embêtante, comme je vous l'ai posée. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Si je n'ai pas l'amour, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Quand je distribuerai en aliment tous mes biens, est-ce qu'il y a des non-chrétiens qui sont capables de distribuer tous leurs biens? Oui. N'est-ce pas? Ce que vous appelez des païens. Malheureusement. Et j'espère que ça a été bien compris, cela, puis qu'on n'entendra plus ce mot-là pour qualifier peut-être même nos ancêtres. Alors, quand je livrerai mon corps pour qu'il soit brûlé, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait cela sans être chrétiens? Oui. Et Jan Palach, par exemple, à Prague, eh bien, ses dernières paroles, après s'être brûlé par le feu, il a demandé pardon. À qui? À Dieu. Parce que c'était un croyant. Mais il a cru que peut-être qu'il pouvait aller jusque-là, que ça ferait quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce qu'il veut de nous. Cela ne me profite de rien. Et alors, vous avez maintenant, vous avez noté, je ne m'en vais pas m'allonger là-dessus, vous avez trouvé 9 choses que l'amour ne fait pas. Alors, vous souvenant de notre introduction, qui vous dit veillez, eh bien, veillez à ne pas faire les choses qui ne sont pas de l'amour. Alors, vous les connaissez maintenant, ces 9 choses. Il n'est pas envieux. Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce que je me laisse aller à l'envie? Quand dans mon cœur, je vois que j'envie quelque chose ou quelqu'un, dans le mauvais sens, je dois m'en juger. Parce que ça, je donne occasion au diable de venir en moi. Quand je me vante, si j'ai la tendance à me vanter, est-ce que c'est son Dieu? Se vanter, est-ce que c'est son Dieu? Est-ce que c'est son Dieu? Qu'un autre te loue, mais non pas ta bouche. Donc je dois me reprendre. Tiens, j'ai eu la tendance de me vanter de quelque chose. Non. c'est pas de Dieu. Alors, l'amour ne sauve pas d'orgueil. Tout d'un coup, je suis encore assez bien satisfait. Je suis arrivé. C'est bien passé. Je m'attribue quelque chose. Est-ce que c'est de Dieu? Non, ce n'est pas de Dieu. Il n'agit pas avec inconvenance. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver quelquefois d'être inconvenant vis-à-vis de quelqu'un? Oui. Alors, est-ce que Jésus était inconvenant? Non. Alors, ce n'est pas de Dieu. Donc, vous avez à veiller. On retombe dans la réunion d'hier. Veillez à cela. Quand je recherche mon intérêt, d'abord, moi, toujours moi, mon intérêt d'abord. Est-ce que c'est de Dieu? Non, c'est pas de Dieu. Alors, c'est pas l'amour. Hein. L'amour, quand je mérite, ça peut m'arriver, je suis charnel, j'ai de la chair comme vous. Si je mérite, qu'est-ce que je contriste en moi? Le Saint-Esprit. Oh, mais on s'excuse, oh, moi c'est une sainte colère. N'est-ce pas? On est toujours prêt à s'excuser et à se donner de bonnes raisons d'avoir pu nous fâcher. Puis, quand on suppose chez les autres du mal, qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce que l'amour fait ça? Et ne suppose pas le mal. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est un liquide? Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est une personne. C'est quelqu'un. Quelle est la définition d'amour? Dans l'épître de Jean, Dieu est amour. Donc, la voie la plus excellente, est-ce que c'est la recherche des dons ou du donateur? Du donateur, vous l'avez compris, et vous l'avez compris une fois pour toutes, n'est-ce pas? C'est le donateur que nous devons rechercher. Et lui nous donnera selon son cœur, selon sa libéralité et selon les tâches qu'il met devant nous. Il nous équipe pour le travail que nous avons à faire. Les œuvres qui nous sont proposées, qu'est-ce qui les a préparées, selon l'Écriture? C'est Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, Éphésiens 2. Mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pas à nous qui les préparons. Nous voulons toujours faire des œuvres pour le Seigneur. Puis nous ne sommes pas capables d'accomplir les bonnes œuvres que Lui a préparées pour que nous les pratiquions. C'est clair? Donc, nous voulons nous laisser équiper par le Seigneur. Ce qui compte dans ce chapitre, c'est justement de comprendre que l'amour, c'est Dieu. Et ce que Dieu ne fait pas, nous ne le faisons pas. Qui est-ce qui a réalisé cela? Le prophète par excellence, en tant qu'homme, Jésus. Jésus a réalisé cela. Au fond, tout ce que vous trouvez dans ce chapitre 13 peut être appliqué à qui? À Jésus. Et vous pouvez prendre ces 9 choses que l'amour ne fait pas. Elle est retrouvée dans les évangiles, dans la vie de Jésus. C'est comme ça qu'on médite, c'est comme ça que l'on grandit dans la connaissance intime du Seigneur. Mais aussi, vous avez souligné 7 caractères positifs de l'amour. Est-ce qu'on les a trouvés dans la personne de Jésus? Est-ce qu'on les trouve en Dieu? Oui, Dieu est amour. Alors, si l'amour, c'est Dieu, eh bien, nous pouvons comprendre. L'amour, il use de patience. Est-ce que Dieu est patient? Oui, n'est-ce pas? C'est son caractère Mais la patience de Dieu a aussi un terme. L'amour, il est plein de bonté. Qui est-ce qui est plein de bonté? C'est Dieu. Sa bonté demeure à toujours. Alors vous retombez dans les psaumes, vous voyez que toute la parole se lit. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore, l'amour, de positif? Il se réjouit avec la vérité. Et quoi encore? Il pardonne tout. Il doute de tout. Non? Il supporte tout. Et quoi encore? Il espère tout. Est-ce que vous espérez encore? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Il espère tout. Il croit tout. Comment? Le meilleur s'en vient. Bon, bon, bon. Alors, on est dans la bonne voie. Alors, on va passer de là, puis on reviendra sur la fin. On va passer de là dans Galates, hein, puisque c'est ça qui vous chicane. Alors, Galates, chapitre 5. Alors, ma question si mal posée. Bien. Donc, l'amour, c'est le donateur. Vous l'avez compris, ça. Hein? Et puis, l'amour n'est jamais nommé dans la parole comme un don. Ça, trouvez-moi le verset où il est dit que l'amour est un don. Parce que c'est toujours comme ça qu'on s'excuse, nous. Qu'est-ce que vous voulez? Lui, il a le don de l'amour, moi je ne l'ai pas. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Si vous êtes de Dieu, vous avez sa nature. C'est un fruit. Vous êtes en Dieu. Il est le sec. Vous êtes les sarments. Alors, les signes du règne de l'amour. Est-ce que c'est le parler en langue? C'est quoi dans ce verset? Puisque c'est un ensemble. L'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, en premier lieu. Hein? Mais le signe du règne de l'amour, quand il y a l'amour, qu'est-ce qu'il y a? La joie et la paix. Voilà les signes. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Elle était tout près, la réponse. Comprenez-vous? Les signes, vraiment, qu'on est dans le règne de l'amour, c'est qu'on est joyeux. Et qu'on a la paix. La paix, pas parce que les circonstances nous sont favorables, mais parce qu'on a entendu Jésus qui nous disait, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et à quel moment est-ce qu'il disait ça? La nuit où il allait être livré et où tout était contre lui. Eh bien, les signes de l'amour, c'est la joie et la paix, les signes du règne de l'amour, ça va ensemble. Et alors, les manifestations de cet amour, quand il y a l'amour, qui est l'amour de Dieu, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance. On ne suppose pas le mal, mais on donne une chance à l'autre. Vous savez, on n'est pas bienveillant. Il nous manque cela bien souvent. On est toujours prêt à croire au mal. Parce qu'on est méchant, méchant, méchant. Quant à notre nature. Mais Dieu, il est bon. Il est bienveillant. Oh, la bienveillance de Dieu. Méditez sur sa bienveillance. Et alors, les conditions de la naissance de cet amour et de son épanouissement, parce que nous devrions avoir des vies épanouies dans l'amour de Dieu. Vous demeurez en Dieu et Dieu demeure en vous. Relisez la première épître de l'apôtre Thomas. Jean, n'est-ce pas? L'apôtre Jean, il nous montre que on demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Alors, les conditions de la naissance de cet amour et son épanouissement, c'est la foi, n'est-ce pas, ou la fidélité, mais c'est cette foi qui croit Dieu. Dieu l'a dit, ça, je le crois. Mon père ne peut pas me mentir. Un enfant, il croit ce que dit son père. Il ne met pas cela en doute. Et puis alors, la foi, elle est suivie de quoi? De la douceur. N'est-ce pas? Un homme de foi, c'est un homme doux. Vous savez, moi, les gens durs, ils me font peur. J'ai pas peur d'eux, c'est pas ça, hein. Mais j'ai peur pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, chez les chrétiens qui sont tellement durs sur ceci et sur cela, tout à coup vous découvrez une drôle de faiblesse. Ils sont durs pour les autres, mais ils sont tellement faibles sur eux-mêmes. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il était? Doux. Alors, je l'ai dit souvent et je le répète, ne détruisez jamais le caractère du Christ en vous. Si Christ est en vous, il vous donnera sa douceur. Et littéralement, la douceur dans l'Écriture, c'est les caractères d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Est-ce que Jésus a insisté sur ses droits? Devant Pilate, par exemple. Tu n'aurais aucune autorité sur moi si ça ne t'était donné dans... Jésus n'a jamais insisté sur ses droits. Il aurait pu demander 12 légions d'anges. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il avait tout pouvoir. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il aimait son Père et qu'il voulait faire sa volonté. Il a été parfaitement maître de lui-même. Si vous voulez un exemple de la maîtrise de soi, eh bien, contemplez le Seigneur Jésus. Maître de lui-même, quand on vient lui poser toute espèce de questions piégées, hein, alors reprenez l'évangile, voyez la maîtrise de Jésus. On vient avec une femme surprise en état d'adultère, on va le coincer au sujet de la loi de Moïse afin d'avoir une accusation contre lui. Et qu'est-ce qui arrive? Est-ce que Jésus se trouble? Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur la terre, hein, comme j'étais complètement dépréoccupé. Puis, il leur dit, bien, tout celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Hein? Et c'est une parole qui les pénètre. Mais malheureusement, elle a touché leur conscience, comme je l'ai souvent répété, mais pas leur cœur. Ils sont retournés chez eux avec leur péché, convaincu de péché, mais pas libéré du péché. La seule qui est restée et qui aurait pu partir, hein, pendant que les accusateurs s'en allaient, la femme, elle pouvait partir. Mais nous, quand on veut convertir quelqu'un, hein, on le retient. Il faut qu'il se décide. Ça semble vite sur le coup. Ben, le Seigneur, tes accusateurs, où sont-ils? Qu'est-ce qu'il y a encore là quand Jésus dit ça? La femme. Elle est là, au pied du Seigneur. Bien, si ces hommes avaient été touchés dans leur cœur, ils seraient venus s'agenouiller à côté de la femme, puis seraient repartis, pardonnés. Va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Voyez-vous, il nous faut avoir affaire avec Jésus, maître de lui. On vient lui poser des questions, les Hérodiens, là, une question plus ou moins politique. Seigneur, nous savons que c'est un maître, donc... Est-ce que nous devons payer le tribut à César? Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Montrez-moi un denier. Hein? De qui est cette inscription? On lui dit de César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ferme la bouche aux Hérodiens. Alors, il y en a d'autres qui viennent avec une histoire incroyable d'une femme qui a eu 7 maris. Elle leur a donné à tous le sida, Ils sont tous morts. Alors dans le ciel, mais de qui sera-t-elle la femme? Ils ont cru qu'ils l'avaient coincée. Vous croyez qu'on coince le Seigneur? Non. Vous errez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui nous caractérise, nous aussi, souvent? On ne connaît pas les Écritures. Et on ne connaît pas non plus quoi? La puissance de Dieu. Comme on ne connaît rien du ciel. Dans le ciel, on ne se marie pas, ni on se donne en mariage. Quelle déception! Mais il n'y aura pas de divorce au ciel. Parce qu'avec tous les mariages qu'il y a sur la terre, il y a trop de divorces. Alors, au ciel, on ne se marie pas, donc plus de divorce au ciel. Mais comment est-ce qu'on sera? Comme les anges de Dieu. Vous voudriez être un ange, hein? Réjouissez-vous. Vous serez comme eux, mais mieux qu'eux. Mais les anges n'ont pas besoin de se marier. Alors, mes amis, est-ce que ça va maintenant, cette question? Est-ce qu'il y a un peu plus de lumière? Alors, ne dites pas, moi j'ai la joie, lui il a la paix, moi j'ai, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas la maîtrise de moi. Alors, qu'est-ce qui est maître de moi? Mes sens. Alors, c'est que le Seigneur ne règne pas. Mais là où règne l'amour, il y a la joie, la paix. Vous comprenez? Il y a tout cela ensemble. C'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Tandis que quand il est question des dons spirituels, c'est les dons spirituels, les manifestations spirituelles qui sont différentes. L'un a ce don-là, l'autre a un autre don, alors il faut que tout soit coordonné en vue de l'utilité. C'est cela la règle. Alors, nous revenons pour terminer à ce chapitre 13. Non, c'était gentil. Alors, l'amour, il ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Puisque quand le Seigneur sera venu, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Car nous connaissons en partie. Et ça, il faudrait quand même qu'on s'en souvienne. Nous ne connaissons qu'en partie. Et voyez-vous, quand on est persuadé de cela, qu'on a encore quelque chose à apprendre, on est humble. Les grands savants sont des gens extrêmement humbles. Parce que, malgré tout ce qu'ils savent, ils témoignent que, comparé à ce qu'ils ignorent, ils ne savent rien. Tandis que nous, quand on croit savoir quelque chose, on dit des bêtises. Parce qu'on ne connaît pas à fond tout le sujet. Alors restons petits et restons à l'école du Seigneur. J'ai toujours besoin d'apprendre, je suis encore à l'école. Jusqu'à la fin de mes jours, je serai à l'école. Il a quelque chose encore à m'apprendre. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est jamais complet. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous demandez à un enfant de parler comme un adulte? Non. Mais il ne faut pas mépriser le langage des enfants. Moi, je suis renversé par ce que les enfants peuvent nous dire et qui nous édifient. Le petit garçon qui a dit que mon âge c'était la vie éternelle, il m'a fait drôlement de bien. On veut chercher mon âge, on demande souvent mon âge. Un petit gars de 5 ans a dit, son âge c'est la vie éternelle. Alors, c'est mieux ça. C'est un gosse de 5 ans qui dit ça. Alors qu'une dame me disait il y a 15 ans, à Jolibet, oh, je pense que vous avez bien près de 80. J'avais ma petite fille qui était à côté de moi, elle voulait presque lui sauter dessus. Mon papitou, il n'est pas vieux comme ça. Mais, vous savez, les enfants, ils voient clair. Ça vaut mieux pas dire d'âge. D'abord, on peut être vieux à 60 ans. Qu'est-ce qui était vieux à 60 ans, je vous l'ai dit souvent. Salomon. On est vieux très vite quand on a 1000 femmes. Hein? Dans sa vieillesse, on voit un Salomon tout barbu, blanc. Hein? Mais non, il avait 60 ans. Il a été couronné à quel âge? 20 ans. Et il était plein de sagesse. Hein? Mais dans les 40 ans de son règne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné. Et il a aimé beaucoup de femmes, au lieu d'aimer le Seigneur, d'abord. Et c'est lui qui avait écrit que celui qui gardera les commandements du Seigneur, il prolongera ses jours. Il ne les a pas prolongés. David aussi, il est mort assez jeune. Quel âge? 70 ans. D'accord. Donc on peut être vieux à 60 ans, on peut être vieux déjà à 40 ans. Mais j'espère qu'il n'y a pas des vieux de 40 ans. On a l'âge de son cœur. Et puis il y a le renouvellement spirituel. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais vous savez, c'est pas pour mépriser la parole des enfants, mais je pensais aussi comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand on devient homme, il y a des choses qui changent, on ne pense plus tout à fait la même chose. C'est pas qu'on est en contradiction, mais il y a une connaissance qui a grandi. Et quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Et il leur dit ça spécialement parce que eux, ce qu'ils désiraient surtout, c'était de parler en langue. Parce que, ben oui, c'est ce que disent un petit bébé. Alors, ils ont pris même ce système, n'est-ce pas, pour vous enseigner de parler en langue. On vous dit, vous n'avez pas dit anticonstitutionnellement. C'est pas le premier mot que vous avez dit quand vous étiez enfant. Vous avez dit ben, commencez comme ça puis vous parlerez en langue. Excitez-vous là dans une réunion d'attente. Vous voulez ça? C'est très facile de partir comme ça. On part en fusée. Mais voilà qu'on ne se pose pas sur l'orbite et on tombe sans parachute. Nous voyons maintenant à travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Je ne dis pas cela parce que je ne crois pas au parler en langue. Je crois qu'il y a un vrai parler en langue. Mais il faut qu'il soit vrai. Puis il faut qu'il y ait une interprétation. Et puis c'est pour notre édification personnelle. Maintenant je connais en partie, alors je connaîtrai à fond comme j'ai été connu. Et maintenant, trois choses demeurent. Quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Parce que quand on sera là avec lui, on n'aura plus besoin de la foi, on aura la vue. Hein? La foi sera changée par la vue, l'espérance par la réalité. On n'aura plus besoin d'espérance, on aura la réalité. Mais qu'est-ce qui nous restera? L'amour. J'espère que vous avez passé une nuit paisible. Avant de vous lire le texte que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, pour terminer cette retraite, je voudrais vous faire une confession. je vous parle des portes. Et il y a une porte que nous trouvons dans le psaume 144. Nous parlons 141. Et c'est la prière que je fais ce matin. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. J'avais espéré de tout mon cœur hier soir, dans cette dernière réunion de la semaine, que le message serait vraiment comme une offrande au Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je n'ai pas assez veillé, et c'est pourquoi je vous cite le verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Je ne suis pas capable moi-même de veiller toujours sur la porte de mes lèvres. Dans le feu de l'action, j'ai ajouté une parole qui n'était pas dans l'Écriture. Et ainsi, je me suis trouvé menteur. Donc, j'ai eu à m'humilier ce matin. Quelle est la parole que j'ai ajoutée à un texte? En vous parlant des questions piégées qu'on posait au Seigneur et de ses réponses, j'ai dit sans le vouloir que les sept maris étaient morts du sida. Et cela a heurté, en tout cas, une âme. Je n'ai pas été conscient immédiatement de cela. Alors, je veux vivre ce que je prêche et me laisser courber par la parole, parce que je n'ai pas voulu, le Seigneur sait quel est mon cœur, me moquer de ceux qui souffrent du sida et qui vont mourir de cela. Mais simplement, c'est une question d'actualité, et je ne sais pas comment cela m'est sorti. Alors je vous le dis, tout simplement, dans l'humiliation. Mais je ne voudrais pas que, par ce seul mot qui vous a peut-être fait rire, parce qu'on pense quelquefois que cela peut détendre, mais on ne se détend pas au détriment de ceux qui souffrent, même des conséquences de leur faute. Et nous savons aussi que beaucoup souffrent à cause de transfusions sanguines, et non pas parce qu'ils ont vécu dans l'homosexualité. Donc je vous dis cela pour être bien libre, pour pouvoir continuer. Alors ce matin, ce que le Seigneur m'avait donné, c'est cette parole: bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes. C'est la traduction la plus littérale, tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées. Dans le souhait de bienvenue, nous avons été conduits à prendre un avertissement de Jésus. Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. Et je vous ai dit que moi, le premier, j'avais à veiller, et sur la manière aussi dont je vous parle. Hier, nous avons entendu l'apôtre Pierre, qui était le grand confesseur de la foi, et qui pensait que lui serait fidèle plus que tous les autres, et qui a dû reconnaître qu'il était aussi faible que ses frères, et à la fin de sa course, il a pu dire, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Et ce matin, la parole que le Seigneur m'a donnée, elle se trouve dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, et c'est encore une parole de Jésus, la sagesse incarnée, qui nous dit, non pas seulement heureux, comme l'a traduit Salomon, mais bien heureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes. Et on se dit, mais quelles sont ces portes où nous devons veiller tous les jours en gardant les poteaux de ses entrées, les entrées du Seigneur? Bien, vous le savez, Jésus a dit, je suis la porte. Et cette porte, elle est étroite. Mais quand on entre par la porte étroite, eh bien, on connaît des issues extraordinaires. Mais il faut d'abord entrer par la porte. Et une fois qu'on a passé la porte, on trouve les portes du Seigneur. Et je voudrais vous laisser ce message. Si vous êtes entré par la porte étroite, eh bien, vous pourrez connaître dans votre vie et dans les jours à venir les portes du Seigneur. Il y en a plusieurs. Je ne m'en vais pas vous en faire l'énumération. Mais si vous lisez la parole, vous trouverez qu'il y a la porte de la foi, la porte de la justice. Entrez par la porte de la justice du psaume 118. Il y a les portes du psaume 100 dans lesquelles nous passons pour apporter au Seigneur la louange du Seigneur. Entrez dans mes portes avec des louanges. Et nous espérons que cet après-midi, dans le culte, nous pourrons franchir les portes de la louange pour apporter notre adoration au Seigneur. Et puis, nous savons aussi que nous qui avons si peu de force, le Seigneur mettra devant nous sa porte ouverte. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et même si nous avons dû passer par la vallée du trouble, la vallée d'accord, nous savons que ces troubles que nous avons connus peuvent déboucher toutefois sur une porte d'espérance. C'est dans le chapitre 2 du livre d'Osée, au verset 14, que l'on trouve cette porte d'espérance. Eh bien, si nous écoutons le Seigneur, si nous nous laissons reprendre par la parole pour ne pas contrister le Saint-Esprit, nous serons bienheureux celui qui m'écoute, qui veille à mes portes tous les jours. Et vous voyez, c'est tous les jours que nous devons veiller, parce que tous les jours, eh bien, nous sommes d'une manière ou d'une autre attaqués par l'ennemi, eh bien, que nous puissions rester aux portes du Seigneur. Et ce qui me frappe, qu'est-ce qu'il y a sur le poteau de ses entrées? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a pour moi ce matin? Le sang du Christ. Et c'est sur le poteau de l'entrée des maisons des Israélites. Et grâce au sang du Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, que ce soit le péché des lèvres, ou que ce soit le péché des pensées, ou que ce soit justement toutes nos tendances, eh bien, le sang du Christ nous purifie de tout péché. Que ta grâce, Seigneur Jésus, nous soit donnée afin que nous ne contristions pas ton esprit et que tes compassions se répandent sur tous ceux qui souffrent, sur tous ceux qui sont dans la peine, et que aujourd'hui tu nous donnes ta bénédiction, la seule qui enrichit et à laquelle tu n'ajoutes aucun châtre. En Jésus. Amen. Je t'attends à vous.